Midi 2, on passe à toute l'info. Après être chez vous, c'est présenté par Fabien Gazot.
Bonjour David, bonjour à tous. L'événement du week-end en Deux-Sèvres est sportif avec la montée du Niort Rugby Club, vainqueur du barrage face à Langon. Hier, les Niortais couraient après cette montée dans l'antichambre de Pro D2 depuis des années. Nous déroulerons ensuite le reste de l'actualité sportive avec un dénouement qui se rapproche dans les sports collectifs. Philippe Mouiller et les sénateurs républicains proposent une loi pour faire face aux déserts médicaux. Vous entendrez le sénateur dans ce journal. Et puis l'homme le plus tatoué de France était ce week-end à Bocapol, professeur des écoles dans le civil. Il a la peau entièrement recouverte de tatouages. Le Niort Rugby Club accède à la Nationale, battue en finale de Nationale 2 dimanche dernier. Les Niortais avaient encore une possibilité de monter à l'échelon supérieur, un objectif poursuivi depuis plusieurs saisons maintenant, et c'est chose faite grâce à cette victoire hier dans le match Access, un barrage remporté face à Langon, le 13e de Nationale. Cette saison, les joueurs de Johan Autier se sont imposés 29-17. Le manager général a dit toute sa fierté au micro-colline de Grégory Diguet.
Très fier. Après la finale, on avait tellement de déceptions. Honnêtement, au début de semaine, on se demandait comment on allait repartir parce que voilà, on espérait vraiment ramener un titre à l'équipe. Et je trouve qu'au fil de la semaine, on a retrouvé les ressources pour aller faire un espèce de gros match parce que Langon avait eu le temps de se préparer, à cette guerre-là. Enfin, ça fait quand même 3 matchs d'affilée où on a plus de 4000 personnes au stade et c'est tout simplement énorme. Je crois qu'ils nous ont porté sur ces phases finales, mais qu'on leur a aussi bien rendu l'appareil en s'envoyant comme des dingues. Et encore, ce match-là, c'était vraiment monstrueux. Voilà.
Les Niortais ont pu savourer leur victoire au milieu de leurs supporters venus sur la pelouse, à fêter cette montée avec les joueurs. L'ouvreur et buteur Anthony Fuertes a souligné la force de caractère de cette équipe.
Très fier du groupe. Après l'échec, voilà, on peut appeler ça comme ça, de la semaine dernière, se relever rapidement et repartir au boulot pour affronter une équipe de Langon qui a connu la Nationale 1 cette année et qui a quand même 10 victoires en Nationale 1, donc c'était quand même un gros morceau et de sortir le match qu'on a sorti ce soir. On peut être fiers de nous, fiers du chemin parcouru cette saison. Il y a eu des hauts, des bas, mais on n'a jamais lâché, on a toujours fait preuve de caractère. Et donc ce soir, voilà, on est super fiers.
Et c'est tout un groupe qui savourait cette montée bien méritée. Gilbert Nazar, le président du club, saluait ce groupe justement.
Ils ont passé des moments extrêmement délicats. Ils ont su faire preuve de résilience. Ils sont fantastiques, joueurs et staff.
Et la fête qui a débuté sur la pelouse d'Espinassou a dû se prolonger tard dans la soirée pour les rugbymen niortais qui montent donc à l'échelon supérieur en national, le 3e niveau après le top 14 et la Pro D2. En football, en national 3, Choret a battu Angers 2-0. Choret jouera sa montée à Rennes samedi prochain. La finale de la Coupe Saboureau opposera Louzy au Scal MC, vainqueur respectivement de Saint-Liguer 3-1 et de Fenouartère 2-0. Fenouartère est passé à côté de son match. Je reconnaissais Jean-François Courillot, le coach au micro de Laurent Guichetot.
On était sur 4-5 bons matchs et là aujourd'hui on a loupé notre match, c'est clair. Alors, peut-être l'émotion avec les spectateurs, mais je pense qu'on a pas joué comme d'habitude et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait un coup à faire.
En basket, en Betclic Elite, Cholet a battu Nancy 95-74. Cholet Basket est officiellement assuré de finir 4e de la saison régulière. Les Choletais auront donc l'avantage du terrain en quart de finale des playoffs. Fabrice Lefrançois ne cachait pas sa fierté au micro de François Larue.
C'est une récompense, c'est une validation de la régularité de la saison. On a produit depuis le 5 août, les gars ont produit tellement d'efforts. Quand je dis les gars, c'est les joueurs, le staff, c'est du 7 jours sur 7. C'est beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices. C'est des gars qui ont prouvé que la force collective, c'est une puissance incroyable quand on sait qu'on peut compter sur l'autre. Des deux côtés du terrain, quand on sait que l'effort est récompensé, le cœur qu'a cette équipe là, c'est incroyable et cette 4e place valide ça.
Et puis en National 2 masculine, la Esnior a été battue par Nantes Basket Hermine 84 à 58. En handball, en D2 féminine, Celles-sur-Belle s'est imposée à l'Homme 19 à 24. Les Celloises joueront un nouveau match décisif pour le maintien dès mercredi face à Bègle. En National 2 féminine, Maucoutan a battu Blanza 28-23. Une nette et belle victoire de Maucoutan qui casse une spirale de défaites. Louis Robichon, le coach du SAM, au micro de Laurent Guichetot.
On sait que quand on prend moins de 25 buts, il y a de grandes chances qu'on gagne ou on augmente nos chances de gagner. Donc franchement, ça soulage, ça fait du bien. Ça redonne le sourire aux joueuses et à tout le monde.
Et tout se jouera sur la dernière journée, le samedi 24 mai, avec Maucoutan qui ira du côté de Évron, le troisième, Bouguenais. Son concurrent direct jouera à Saint-Sébastien-Sud-Loire, le deuxième de ce championnat. En course à pied, les foulées du marathon avaient lieu hier à Sancey-la-Garette. Le marathon a été remporté par Maëlle Goujon chez les femmes et Stéphane Dufaux chez les hommes. Il est au micro de Grégory Diguet.
Moi, je fais plus trop de courses sur route maintenant, je fais beaucoup de trail. Donc, bon, comme c'était à la côté de la maison, j'ai dit je vais venir faire le marathon. J'espérais faire aux alentours de 45. Je savais pas trop après comment tu peux faire un marathon. C'est tellement aléatoire. Bon, je suis parti sur ce que je prévoyais. J'ai dit bon, allez, 3,45, 3,50 au kilo. Ça faisait ça, 2,45 à l'arrivée. Je craque pas, donc ça me permet de faire 2,43, 53 à la montre. Bon, ils annoncent 2,44, mais ouais, super content.
Et sur le 12 km, Cyrielle Tirelli a remporté la course femme. Melvin Chauvineau s'est imposé chez les hommes. Sur le 21 km, le semi, c'est Mélanie Cariou et Jonathan Billot qui s'imposent. L'actualité sportive qui s'est aussi mêlée aux faits divers en début de week-end, puisqu'un minibus transportant des athlètes du SBAC est impliqué dans un accident de la circulation, un grave accident. Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi, relatait hier la Nouvelle République sur l'A87 vers Chemilly, alors qu'il transportait 7 athlètes de retour d'un meeting à Saint-Barthélemy d'Anjou. Le minibus est entré en collision avec une voiture qui circulait en contresens sur cette autoroute. Les véhicules ont pris feu. Le conducteur de la voiture est décédé. Les athlètes âgés de 15 à 19 ans et leur éducateur ont été hospitalisés à Angers et Cholet. Deux d'entre eux sont encore à l'hôpital. Un suivi psychologique va être mis en place par le club pour soutenir les accidentés, terriblement choqués par ce drame. Deux jeunes conducteurs en grand excès de vitesse samedi en début de soirée. Les gendarmes de Thouars ont interpellé un jeune Thouarsais âgé de 17 ans qui circulait à vive allure sur la RD 938 à Saint-Varan à 130 km/h au lieu des 80. Le lendemain, dimanche en fin d'après-midi, les gendarmes ont interpellé un automobiliste Choletais âgé de 18 ans à Moléon à 134 km/h au lieu des 80. Ils ont fait l'objet tous les deux d'une rétention immédiate de leur permis de conduire et leurs véhicules respectifs ont été immobilisés. Ces deux jeunes conducteurs seront convoqués au tribunal judiciaire de Niort. Pour lutter contre les déserts médicaux, des sénateurs ont présenté une nouvelle proposition de loi. Ce texte en préparation depuis un an est porté par le sénateur LR de Sévrien, Philippe Mouillet. Il sera examiné en séance cette semaine. Alors que dit ce texte? Écoutez la réponse de Philippe Mouillet.
D'abord, on est sur la mise en place d'un outil d'évaluation des vrais besoins, parce qu'on voit bien qu'il y a un décalage entre ce que voit Paris et les territoires sur le terrain, puisque globalement, nous, on veut fonctionner en temps médical et pas en nombre de professionnels de santé. Il y a des professionnels de santé qui travaillent à temps partiel, certains sont retraités et donnent juste un coup de main, et donc il faut qu'on ait réellement une capacité de se rendre compte quels sont les besoins des populations, parce que je pense que la situation est plus difficile encore qu'elle n'apparaît aujourd'hui dans les statistiques. Ça, c'est un premier point. Deuxième volet, on a beaucoup de mesures qui permettent de simplifier la vie du médecin. On a beaucoup de mesures qui viennent enlever le côté administratif pour augmenter le temps médical.
La proposition de loi défendue par les sénateurs LR arrive en même temps que le texte porté par le député Garot, mais également par la députée de Sévrienne, Delphine Bateau. Les deux propositions présentent des points communs, mais se distinguent notamment sur la régulation de l'installation des médecins. Philippe Mouillet.
On souhaite mettre des règles, notamment dans les territoires où il y a trop de professionnels de santé. Il y en a peu, mais il y en a quelques-uns. C'est ce qui choque, c'est à savoir qu'il y a des endroits où on n'a pas de dermato, alors que à 80 km, il n'y a pas de difficulté pour avoir des rendez-vous. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'équité. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre des règles, c'est-à-dire sur les territoires dits surdenses, eh bien on demande à ce que l'installation d'un professionnel de santé, généraliste ou spécialiste, soit conditionnée au fait qu'il puisse consacrer du temps dans ce qu'on appelle des cabinets secondaires ou dans les consultations avancées, dans des zones qui ont des besoins de proximité. Donc ça veut dire que ça permet comme ça de consacrer tout de suite du temps, de façon très opérationnelle, à des populations qui aujourd'hui sont éloignées des médecins généralistes et des spécialistes. Donc ça, c'est une mesure particulière. Et puis ensuite, il y a une dernière mesure qui est très pragmatique et qui permet d'avoir un effet rapide. C'est-à-dire qu'on permet aujourd'hui de simplifier l'installation de tous les médecins et spécialistes étrangers qu'on a dans les hôpitaux qui vont fonctionner, nos urgences, nos blocs opératoires, qui ont un statut qui ne leur permet pas de consulter pleinement, qui ne leur permet pas d'aller notamment en médecine de ville. On leur donne la possibilité de pouvoir accélérer leur installation de façon à ce qu'on ait tout de suite plusieurs milliers de médecins opérationnels sur le territoire national.
Et il est à noter que le syndicat des médecins généralistes, majoritaire chez les libéraux, y voit un texte plus acceptable que celui porté par les députés. Affaire à suivre. Du changement à prévoir dans les collèges privés du Bocage-Bressuirais à la rentrée prochaine. Sébastien Jarry, qui est officie actuellement à François d'Assise à Cerizay, va prendre la direction du collège Notre-Dame de Bressuire. Il va remplacer Patricia Morin, qui va prendre sa retraite. Le premier Bressuire Tattoo Show ce week-end à Bocage-Dépôt. 120 tatoueurs venus de toute la France étaient sur place pour présenter leur art et l'appliquer sur un public particulièrement nombreux. Tous les styles, toutes les tendances étaient représentées avec en vedette entre guillemets Sylvain Hélène alias Friki Houdi, l'homme le plus tatoué de France, de la tête aux pieds et même dans la bouche. À 40 ans, ce professeur des écoles a réalisé son premier tatouage il y a une petite quinzaine d'années. Et ça donne depuis à cette véritable passion. Friki Houdi au micro de Patrice Bémanongi.
Ce n'est pas une obsession parce qu'il n'y a que du positif. C'est une passion parce que ça m'a apporté plein de choses, parce que grâce à ça, je fais attention à ce que je mange, je fais beaucoup de sport, donc je suis en excellente santé et je me déplace dans toute la France et toute l'Europe pour faire des événements. Je tourne dans des films, dans des séries, donc ça ne m'a apporté que du positif. Les gens, des fois, confondent passion et obsession ou addiction. Pour moi, c'est vraiment que du positif, donc c'est pas une addiction.
Tu fais beaucoup de conventions comme ce qui se passe à Bressuire ce week-end?
En fonction des saisons, je travaille des fois 7 jours sur 7. Donc là, par exemple, de mi-août à mi-novembre, on a fait des conventions tous les week-ends. Et là, comme c'est l'été qui revient, ça recommence. Et je suis là, nous sommes en mai, et je fais des conventions tous les week-ends aussi, oui.
Et les tatoueurs, quelles questions te posent-ils ?
Il est rare que des tatoueurs ne me connaissent pas. Après, ce sont souvent des questions techniques. Parce que comme je suis très tatoué, j'en suis à plus de 600 heures. En général, ils me posent des questions là-dessus, sur comment s'est passée telle ou telle partie, parce que eux vont la tatouer sur quelqu'un ou parce qu'eux vont se la faire tatouer sur eux-mêmes.
Est-ce qu'il y a encore un tatouage qui te manque?
Actuellement, je fais ma deuxième couche, c'est-à-dire que je repasse par-dessus ce que j'ai déjà, et après j'en ferai une troisième, une quatrième, une cinquième, donc ce n'est pas un manque, c'est juste que toute ma vie je me ferai tatouer parce que je suis passionné.
Friki Houdi, considéré comme l'homme le plus tatoué de France, présent ce week-end à Bocage-Dépôt à l'occasion du premier Bressuire Tattoo Show. En bref, le groupe Los Caminantes a remporté le tremplin des arrosés. Les quatre amis, trois instruments et un rappeur se sont imposés devant deux artistes féminines, Urual et Andri. Les Poitevins auront donc le privilège d'assurer la première partie du groupe Negmaron le vendredi 27 juin, première soirée d'un week-end chargé pour les 15 ans du Festival des Arrosés sur l'esplanade du château de Thouars.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Les nuages dominent et laissent échapper quelques averses encore cet après-midi. Les températures plafonnent à 16 degrés cet après-midi pour les maximales. Un vent qui vient du sud souffle en rafale jusqu'à 50 km/h. Un temps instable jusqu'à mercredi compris. La fin de semaine sera plus agréable et beaucoup plus ensoleillée. Toute l'info près de chez vous revient désormais ce soir à 18h avec Patrice Bémanongi. Bon après-midi.
C'était la météo avec...